Mandarin. Deuxième partie, chapitre 2. Encore un bon tour. Le lendemain matin, à la première heure, suivant les rigoureuses instructions de l'exantrolon, le sergent Cornebise, accompagné de 10 gendarmes, choisis parmi les plus résolus, quittait le château des Aigles, emmenant Thiénot, les menottes aux mains et les jambes à demi entravées. Jusqu'au village de Saint-Martin, où, ainsi qu'il en avait été convenu, les gendarmes de Pistolet devaient remettre leurs prisonniers à la brigade de cette localité, tout s'était passé sans le moindre incident. Thiénot, qui semblait résigné à son sort, marchait silencieusement, sans laisser échapper la moindre parole, n'ayant même pas l'air d'entendre les colibés que lui lançaient de temps en temps les hommes de son escorte. Néanmoins, le sergent Cornebise ne put réprimer un soupir de soulagement lorsque, après avoir atteint les premières maisons du village, il aperçut, devant la modeste habitation qui leur servait de caserne, son collègue en train de passer la revue des 8 gendarmes qui devaient conduire Thiénot jusqu'au présidial de Grenoble. La formalité fut d'ailleurs rapidement accomplie. Après avoir donné à son collègue un papier reconnaissant que celui-ci lui avait remis le prisonnier, ou plutôt la prisonnière, le sergent qui commandait la brigade de Saint-Martin proposait « Mon cher camarade, entrez donc vous rafraîchir un peu. Vous trouverez chez nous certains petits clairés qui vous remettra des fatigues de la route et vous permettra de vous en retourner chez vous le chapeau sur l'oreille. » Les deux sous-officiers échangèrent une cordiale poignée de main. Le premier commanda à ses hommes, qui entouraient déjà Thiénot, « En avant, marche !» Le petit cortège s'engagea sur le chemin des Échirolles, et le sergent Cornebise, content de s'en être tiré à si bon compte, pénétra dans la maison avec ses gendarmes. Tous eurent une exclamation de joie. Sur la table, un large plat sur lequel s'étendait un jambon des plus appétissants, un énorme pain, une superbe motte de beurre doré et plusieurs pichets de vin mousseux semblaient ne plus attendre que les convives. Décidément, à la brigade de Saint-Martin, on faisait royalement les choses. Tandis que le sergent Cornebise et ses hommes s'installaient sans la moindre hésitation devant ses provisions et s'apprêtaient à les faire disparaître avec cet appétit que procure toujours à des estomacs robustes et sains une longue course matinale, les gendarmes de Saint-Martin continuaient leur chemin en encadrant Jeanne d'Estenave qui, toujours impassible, réussissait à dompter, grâce à un effort de sa volonté inlassable, la grande fatigue qui commençait à s'emparer d'elle. Quel ne fut pas son étonnement lorsque, au bout d'un quart de lieue, le sous-officier qui commandait l'escorte, au lieu de continuer à suivre le chemin des Échirolles, fit brusquement s'engager sa petite troupe dans un sentier rocailleux qui grimpait vers la montagne dans une direction opposée à Grenoble. Pour rien au monde, elle n'eût voulu interroger ses gardiens. Pourtant, il lui sembla que plusieurs d'entre eux, sous leurs grosses moustaches, esquissaient un sourire, tout en se chuchotant à l'oreille des paroles qu'elle ne pouvait saisir. Et elle se demandait, « Pistolet, convaincu que rien ne me fera parler, aurait-il donné l'ordre à ses gendarmes de se débarrasser de moi sans autre forme de procès ?» Mais soudain, un cri lui échappa. Au détour du sentier, elle venait d'apercevoir, se détachant fièrement, campée sur une roche isolée, la puissante silhouette de Mandrin. Instantanément, à la profonde stupeur de Thiénot, les gendarmes qui l'escortaient présentaient les armes, et Mandrin dégringolait de sa roche, accourant vers Thiénot, la main tendue et le sourire aux lèvres. « Je pense bien, lança-t-il, que tu n'as pas cru un seul instant que je t'avais abandonné. « Capitaine !» s'écria Jeanne d'Estenave. Et, dans un élan de reconnaissance éperdu, elle se précipita vers Mandrin. Fraternellement, Celui-ci la serra dans ses bras et la débarrassa de ses menottes. Puis, lui montrant les faux gendarmes qui s'empressaient de se débarrasser de leurs perruques et d'arracher les grosses moustaches qu'ils s'étaient collées sous le nez, il scanda « Tu ne reconnais donc plus les amis ?» Ce fut une explosion de franche gaieté, et Jeanne d'Estenave, tout en serrant les mains qui se tendaient vers elle, ne cessait de contempler Mandrin qui lui disait « Et maintenant, Thiénot, nous sommes quittes. »« Non, capitaine, répliquait-elle, c'est une nouvelle dette de gratitude que je viens de contracter envers vous. Croyez que je saurais m'en acquitter. » « Je n'en doute pas, mon petit. Mais maintenant, vite, à cheval, car on m'attend là-bas. Je te raconterai en route la suite de mon aventure. Apprends seulement que je suis le plus heureux des hommes. » À ces mots qui la déchiraient, Jeanne d'Estenave ne broncha pas, et, sautant lestement en selle sur un cheval que lui présentait un contrebandier, elle murmura « En échange de ce qu'il vient de faire pour moi, faites, mon Dieu, qu'il ne s'aperçoive jamais de ce que je souffre pour lui. » Pendant ce temps, le sergent Cornebise et ses hommes continuaient à faire bombance. L'un d'eux, s'apercevant que les brocs étaient vides, émit l'idée d'une petite excursion à la cave. Cette proposition fut acceptée à l'unanimité, mais elle allait donner lieu à un incident auquel les dignes représentants de la maréchaussée étaient loin de s'attendre. Bientôt, en effet, de la cour intérieure s'élevaient des cris. « Venez, venez tous !» Le sergent Cornebise et ses hommes se précipitèrent au dehors. Debout, devant la porte ouverte d'un cellier, leur collègue, la figure décomposée, s'écriait en désignant le bâtiment.
« Ce hangar est plein de cadavres !»
Affolé, le sergent Cornebise s'élança à l'intérieur du bâtiment. Tout de suite, il recula, épouvanté. Des corps, n'ayant plus pour tout vêtement qu'une chemise, gisaient sur le sol, rigides, immobiles, étroitement bâillonnés et ligotés.
« Qu'est-ce que cela veut dire ? » grognait le sergent que ses hommes avaient rejoint.
Et, reprenant ses esprits, il donna l'ordre de délier ces malheureux. Mais, à peine un des gendarmes avait-il détaché le bâillon de l'un des captifs que celui-ci s'écriait
« Mais il était temps que vous arriviez, sans quoi nous allions mourir étouffés !»«
Qui êtes-vous donc ? » ?»«
Nous sommes les gendarmes de Saint-Martin !»
C'était en effet toute la brigade qui gisait là, dans le plus simple appareil. D'une voix tremblante d'indignation et de colère, leur chef, le sergent Camusard, en se remettant péniblement sur ses jambes, déclarait
« Cette nuit, nous avons été surpris et attaqués par Mandrin, qui nous a volé nos uniformes et nous a mis dans cet état. »
« Alors, conclut le sergent Cornebise, c'est lui qui nous a subtilisé notre prisonnière. »
« Comme de raison,
appuya le sergent Camusard qui, dans son costume ultra léger, faisait, ainsi que ses hommes, plutôt piètre figure.
« Nous voilà dans de beaux draps !» se lamentait Cornebise. « Que faire ?» se demandait Camusard.
Cornebise réfléchit un instant.
« Il n'y a qu'un parti à prendre, » déclara-t-il.
« Courir au château des Aigles et prévenir sans retard l'exempt trop long. »
Et, retrouvant toute son énergie, il s'écria
« Allons, tous en route, et vivement !»
Le sergent Camusard observait. « Donnez-moi au moins le temps, ainsi qu'à mes hommes, de passer quelques vêtements, car nous ne pouvons pas nous présenter au château dans une tenue aussi indécente.
Soit, mais dépêchez-vous !»
Camusard et ses gendarmes, à la fois penauds et furieux, se précipitèrent dans la maison. Et le sergent Cornebise, gourmandant ses hommes, incapables de résister plus longtemps à l'hilarité que leur causait la fâcheuse posture de leurs camarades, s'écriait
« Il n'y a pas de quoi rire, car c'est toute la maréchaussée de France que Mandrin vient de couvrir de ridicule, et c'est une insulte qu'elle ne lui pardonnera pas. »
Bourré d'Érigny, de plus en plus irrité de l'échec qu'il avait subi aux ruines de Saint-Barnabé, arpentait à grands pas son cabinet de travail du château des Aigles, tout en lançant à Pistolet, qui,
installé devant une table, traçait d'une plume alerte le message que lui dictait le fermier général.
« À monsieur le marquis d'Argenson, lieutenant de police. J'ai l'honneur de vous mander que l'insolence de Mandrin a dépassé toute limite. Non content de piller et rançonner les caisses publiques, il a réussi à pénétrer jusqu'à mon château et à m'enlever ma femme, le soir de mes noces. J'apprends à l'instant que, déjouant mes poursuites, il a passé la frontière au moment où je m'apprêtais à l'attaquer dans l'un de ses repères. Pour réduire Mandrin à l'impuissance, nous aurions besoin d'une véritable armée. Aussi, monsieur le marquis, je vous prie instamment de nous envoyer sans délai les renforts nécessaires. »
Mais l'arrivée du laquais interrompit Bourré d'Érigny.
« Monsieur le fermier général, annonçait le domestique, c'est le brigadier Cornebise qui désire parler tout de suite à monsieur l'exempt Rollon.
« Sans doute, observait ce dernier, vient-il me rendre compte de sa mission ?
Qu'il entre. »
Dès que Pistolet vit apparaître le sergent, à sa mine déconfite, il devina aussitôt qu'un événement fâcheux avait dû arriver.
« Monsieur le fermier général, monsieur l'exempt,
bredouillait l'infortuné Cornebise,
Mandrin,
il s'arrêta, la gorge sèche et la bouche dépourvue de toute salive.
« Eh bien, qu'a-t-il encore fait ?
Interrompit Bourré d'Érigny.
« Il nous a enlevé notre prisonnier.
« Et vous êtes encore vivant ? S'exclama Pistolet. D'un geste impérieux, Bourré imposait silence aux policiers et, empoignant le représentant de la maréchaussée par sa buffleterie, il lui dit
« Expliquez-vous, en attendant que je vous fasse coffrer ainsi que tous vos camarades.
Monsieur le fermier général, haletait le sergent.
En deux mots, voici. Tout s'était très bien passé jusqu'à la brigade de Saint-Martin, où, ainsi qu'en fait foi cette décharge, j'avais remis le prisonnier à mon collègue.
Mais les gendarmes de Saint-Martin n'étaient pas des gendarmes.
Qu'est-ce que vous me racontez là ?
C'étaient des bandits.
Des bandits ?
Parfaitement, monsieur le fermier général. Des mandrins qui, après avoir ligoté et bâillonné nos camarades de Saint-Martin et les avoir cachés au fond d'un cellier, leur avaient volé leurs uniformes et s'étaient présentés à nous à leur place.
Tonnerre !
S'écriait Bourré hors de lui. Et, concentrant toute sa fureur contre le sieur Trollon qui courbait le dos sous l'orage, il martela
« Décidément, monsieur l'exempt, vous êtes un drôle de pistolet !»«
Monsieur le fermier général, permettez... »«
Je ne vous permets rien !»
coupait d'Érigny, d'un ton qui n'admettait pas de réplique.
« D'ailleurs, je n'ai que faire de vos services !»
Je compte que le marquis d'Argenson ne manquera pas de m'envoyer promptement des renforts, car ce n'est pas avec une poignée de gendarmes et un policier tel que vous que nous viendrons à bout de toute cette racaille. En attendant, restez en ce pays ou retournez à Paris, peu importe, pourvu que je ne vous retrouve plus en ma présence.
Alors, vous me congédiez, je vous chasse.
Soit, monsieur le fermier général, s'écriait l'homme noir. Mais rappelez-vous ceci, c'est encore ce drôle de pistolet qui, mieux que 500 fusils, mieux qu'une armée, vous ramènera votre femme et vous livrera Mandrin. Et, après s'être incliné jusqu'à terre, il s'éloigna, laissant Bourré d'Érigny tout abasourdi par cette incartade. Le fermier général, qui avait oublié le sergent Cornebise, s'en fut rageusement s'installer devant sa table et acheva de sa propre main la lettre qu'il avait commencé de dicter à l'exempt. « J'apprends, écrivit-il, à l'instant même, que Mandrin vient de réussir à enlever aux gendarmes une de ses complices dont nous nous étions emparés. J'insiste donc, encore un coup, sur l'urgence qui s'impose d'en finir une bonne fois pour toutes avec ce bandit.
Ces succès répétés ne font en effet que grandir l'enthousiasme du peuple. On crie ouvertement « Vive le capitaine Mandrin !» dans la campagne, par les villages et jusque sous les fenêtres de mon château. L'incendie allumé par ce misérable se propage de toutes parts de la façon la plus inquiétante, et s'il n'est pas promptement éteint, il ne tardera pas à gagner tout le pays. Il ne s'agira plus alors de réduire à merci un révolté, mais de combattre une révolution dont les conséquences peuvent provoquer d'irréparables désastres. Comptant sur votre appui énergique, je suis, monsieur le lieutenant de police, votre très humble et très obéissant serviteur, Bourré d'Érigny. Le fermier général, après avoir relu sa lettre, la plia et la cacheta avec soin. Puis, écrivant sur le pli l'adresse du marquis d'Argenson, en y joignant cette mention « confidentielle », il appela d'un ton bref, impératif, « Sergent !» Le brave Cornebise, qui était resté dans son coin aussi immobile qu'une statue, tressauta. « Monsieur le fermier général, vous allez immédiatement partir pour Fontainebleau. »
Pour Fontainebleau ?
Bégayait Cornebise, complètement ahuri. Vous galoperez jour et nuit et vous crèverez 20 chevaux en route, peu m'importe. Mais il faut qu'avant 4 jours, cette lettre soit parvenue entre les mains du lieutenant de police. Voici une bourse bien garnie qui vous donnera toute facilité pour votre voyage. Prenant le message d'une main et la bourse de l'autre, le sergent, qui n'en croyait pas ses oreilles, demeurait bouche bée, les yeux ronds, en l'attitude nettement expressive d'un homme qui ne comprend rien à ce qui lui arrive. « Mais qu'est-ce que vous attendez ? » s'écriait M. Bourré d'Érigny en frappant du pied. « Monsieur le fermier général, c'est bien à Fontainebleau, près de Paris, que vous me dites de me rendre. Immédiatement ! Mais c'est loin !» Très loin.
Et après ?
Est-ce qu'avant de partir, je ne pourrais pas aller embrasser ma femme ?
Allez embrasser qui vous voudrez,
s'énervait Bourré d'Érigny. Mais retenez bien ceci. C'est aujourd'hui dimanche. Eh bien, si jeudi soir, au plus tard, ma lettre n'est pas arrivée à destination, et je le saurai, je vous fais envoyer aux galères. Allez ! Le sergent Cornebise, littéralement ahuri, s'empressa de s'esquiver. Alors, donnant libre cours à sa rage, Bourré d'Érigny, s'emparant d'un magnifique vase de porcelaine de Chine placé sur son bureau, le jeta à terre où il se brisa en 1000 morceaux. Et, tout en grinçant des dents, il gronda en un accès de haine délirante « C'est ainsi que je veux te voir, mandrin !» En morceaux, rompu par le bourreau et attaché à la roue, écartelé par les chevaux.